Vous écoutez RTL. Jean-Sébastien Petit-Demange et Jade sur RTL.
Itinéraire d'un auditeur gâté.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Jade.
Bienvenue dans Itinéraire, itinéraire en forme de carnet de voyage aujourd'hui, puisque Jean-Sébastien, vous êtes parti à Budapest quelques jours et vous en avez profité pour rencontrer quelques personnes sur place. Et aujourd'hui, vous allez nous faire partager cette escapade. C'est la destination idéal pour un gros week-end.
Ah, c'est idéal, c'est un bonheur pour 3-4 jours de voyage,
ouais.
Histoire de découvrir une autre ville, une autre vie. C'est presque exotique, hein.
Oui, c'est dépaysant complètement.
Absolument. L'Orient commence aux portes de Vienne. Ça, c'est Metternich qui disait ça en parlant justement de la Hongrie. Eh bien, c'est exactement cela. Lorsqu'on arrive à Budapest, c'est un dépaysement total, ne serait-ce que par la langue très particulière, extrait de Un livre un jour d'Olivier Barraud.
Le peuple hongrois, les Magyars, sans doute originaires de l'Oural, n'a rien à voir avec les voisins slaves qui l'entourent. Et sa langue, pour nous désarmante, constitue une famille linguistique presque à elle seule.
Et c'est vrai que ça ne ressemble à rien du tout, le hongrois. C'est une langue particulière qui vient sans doute de ces Huns qui envahirent la Hongrie. D'ailleurs, le mot Hongrie vient de Huns à leur tête. Attila, oui. On est au 5e siècle à cette époque. Et combien d'envahisseurs n'ont-ils pas convoité, occupé la Hongrie et la cité danubienne placée sur la route de Vienne comme une ligne de démarcation imaginaire entre Orient et Occident. Budapest, une ville qui a été très riche, très belle, cosmopolite et prospère. Et puis, la fête s'est arrêtée pour laisser la place au diable de l'histoire et semer la peur entre la Deuxième Guerre mondiale et le communisme. Et puis, il y eut 1989. Christine Ockrent.
C'est la Hongrie qui nous a lâché la première. C'est ce que nous disait hier soir à Berlin-Est un dirigeant du régime est-allemand. Il parlait bien sûr de l'ouverture de la frontière hongroise vers l'ouest il y a 3 semaines.
La Hongrie, que l'on croyait mourante, a retrouvé son lustre après avoir devancé la chute du rideau de fer. Le pays, il est entré dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Budapest, c'est une capitale brillante, vibrante, jeune, à la fois traditionnelle et remplie de modernité. Une des villes européennes qui bouge. Une ville de 1 700 000 habitants qui a le vent en poupe, tellement le vent en poupe qu'on retrouve la ville dans nombre de films sans même savoir que c'est tourné à Budapest. Par exemple, Mission Impossible, Protocole Fantôme. Une partie du film a été tournée à Budapest. Radio Box de Costa Gavras. Et puis, tiens, Cyrano de Bergerac.
C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses dans ce homme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais attelé le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour voir. Faites-vous fabriquer un anap.
Une des scènes de Cyrano a été tournée dans un bar que l'on peut encore voir dans le centre de Budapest. Et c'est pas Radio Box, c'est Music Box,
le film de Costa Gavras. Magnifique.
Et donc, nous allons partir en voyage pendant 1h30 à Budapest.
Commençons notre promenade à Budapest. Et à ce propos, Jean-Sébastien, est-ce que ça coûte cher de se rendre à Budapest et combien y a-t-il de temps de voyage? Est-ce que c'est long?
Écoutez, grosso modo, il faut 4 heures d'avion pour aller là-bas. Les offres qu'on peut trouver pour des vols secs, hein, donc sans l'hébergement sur place,
oui,
c'est entre 50 et 200 euros aller-retour, suivant la compagnie. Évidemment, vous pouvez avoir des tarifs plus intéressants à partir du moment où vous achetez l'hôtel et l'aérien. Et on se retrouve là-bas avec plaisir. L'aéroport est à une vingtaine de kilomètres de la ville. Mmh. Et en une grosse demi-heure, on est dans le centre-ville.
Alors, merci Jean-Sébastien. Maintenant que nous sommes à Budapest, direction les berges du beau Danube bleu. C'est maintenant sur RTL.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL.
Avec le guide du routard.
Alors, un des éléments essentiels de la ville de Budapest et de la Hongrie, c'est le Danube.
3019 kilomètres depuis sa source. 2875 kilomètres depuis Donaueschingen, où les deux petites rivières se rejoignent pour former le Danube, et tout cela jusqu'à la mer Noire. C'est le deuxième plus long fleuve d'Europe. Il parcourt tout le pays, toute la Hongrie. Et comme me l'a expliqué mon guide que j'ai retrouvé sur place, Pascal Michaud, eh bien c'est un fleuve totalement essentiel à la capitale et au pays.
C'est identitaire à l'Europe, hein, puisque le Danube traverse toute l'Europe, plus de 3000 km de long. Et c'est vrai que sur la Hongrie, il traverse sur 400 km. Et ça c'est une image de la Hongrie, et plus particulièrement de Budapest. Hein. Budapest est la perle du Danube.
On dit que c'est ici où il devient un vrai fleuve.
Bien sûr, il prend de l'ampleur. On pourrait dire que c'est au moment, à l'endroit de la boucle du Danube, au nord de Budapest, où il décrit une courbe et il redescend sur Budapest, qui prend toute sa majesté.
Ça a été l'élément qui a fondé Budapest. Buda d'un côté, Pest de l'autre. Ces deux villes qui ont une histoire très différente à cause du Danube.
Dès les origines, le Danube était une frontière naturelle. On se rappelle de nos lectures d'Astérix et Obélix avec les limes romains. Les limes romains étaient le long du Danube. Et si on revient sur Budapest, donc en 1873, réunification de la ville. Et bien sûr, il y a deux parties, Pest et Buda. Et pendant très longtemps, on ne pouvait pas forcément traverser d'une rive à l'autre. Il y avait des ponts flottants. Et c'est uniquement avec la construction du pont devant lequel on se trouve, le pont Széchenyi, qu'il y a une jonction entre les deux villes. Et peut-être, comme je te le disais, il y a deux mentalités, du côté Pest qui est plutôt hongroise et du côté Buda qui est plutôt allemande et aristocratique. Tu peux le voir, hein, il y a des symboles de chaque côté. Quand tu regardes du côté Buda, tu vois le palais royal et le quartier du château, hein, qui sont inscrits au patrimoine de l'humanité. Et puis de l'autre côté, tu vas voir le parlement, donc peut-être la Budapest démocratique, et puis c'était le foyer de l'industrie et de l'économie de Budapest.
La ville originelle, c'est la citadelle qui est là-bas ou c'est...
Il y a deux sites en fait. Au pied de la citadelle, c'était toujours un lieu d'implantation, des Celtes en particulier. Mais ensuite, il y a eu un oppidum romain et puis les Turcs en ont fait également une place forte. Mais le site d'origine romain se trouve au nord de Budapest, toujours dans Budapest, au Buda, où on retrouve la vieille ville romaine.
Les Hongrois, ils sont très attachés à leur fleuve. C'est un endroit où on vient se balader.
C'est sûr que le Danube forge l'identité de Budapest, et dans l'inconscient des personnes qui viennent visiter la ville, il reste toujours cette image du beau Danube bleu, hein, de Johann Strauss. D'ailleurs, il n'est pas toujours bleu, comme tu peux le voir. Hein. Il change de couleur, mais ça forge véritablement l'identité de la ville. Et les Hongrois ou les Budapestois vont facilement aller du côté de l'île Marguerite, la grande île sur le Danube, pour aller se balader, pour aller se détendre.
Ça, c'est un des endroits très nature de la ville, hein, l'île Marguerite.
Alors, le poumon vert sur le Danube, c'est l'île Marguerite, où on trouve des bains, où on peut se balader, faire son footing. Donc tu verras vers 6h30 du matin, déjà les Budapestois aller faire leur footing sur l'île Marguerite.
Et on se rend compte, en fait, et on va le découvrir au fur et à mesure, l'eau est un élément primordial de la ville de Budapest.
Tout simplement, c'était en 1930 que Budapest a reçu le titre de capitale des eaux. Hein, donc on retrouve des sources thermales, on retrouve le Danube, et on peut faire des croisières pour aller au nord sur la boucle du Danube, ou à Esztergom pour découvrir la première capitale royale. Et puis sinon, on peut faire une grande croisière de l'Allemagne jusqu'à la Roumanie.
À l'occasion de la fête des Pères, RTL et Thalazur vous offrent un séjour détente au grand hôtel Cordouan Thalazur à Royan. Alors pour que vos courts séjours prennent la couleur de vos envies en thalasso, une évasion, une détente de 3 jours, 3 nuits en chambre avec vos petits déjeuners, 3 soins par jour, des soins d'hydrothérapie, des bains, des enveloppements, des douches sous-marines et un soin privilège parmi tout ça, c'est le modelage californien, ça va vous faire du bien. Pour gagner ce séjour, vous devez d'abord répondre à une question.
Comme nous sommes à Budapest, quel est le fleuve qui traverse Budapest ?
Voilà, je pense que là, c'est encore une fois très très difficile. Vous appelez le 3210, on vous attend pour vos réponses. On fait gagner une thalassothérapie pour la fête des pères. Oui. Eh bien, si Budapest n'est pas une ville d'eau de mer, c'est une ville d'eau et de bain. On découvre ça maintenant sur RTL.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL.
Avec le guide du retard.
Alors Jean-Sébastien, est-ce que vous avez testé les fameux bains de Budapest ?
Évidemment !
Alors, c'est comment ?
C'est bien !
C'est aussi beau que sur les cartes postales que je n'ai toujours pas reçues.
Ah bon ?
Non.
Ah bah écoutez,
vous les avez envoyés
alors,
ah
je pense.
Ah bah, voilà, c'est ça.
Oh, dites donc. Mais écoutez, c'est aussi beau, d'autant que je vous avais envoyé une carte postale du bain dans lequel j'étais, le bain Setchény, avec, vous savez, les joueurs d'échecs qui sont dans l'eau, et les tables d'échecs également qui sont dans l'eau. Mm-hmm. Et c'est vrai que les Hongrois, tout au long de leur vie, fréquentent assidûment les établissements thermaux, réputés pour leurs bienfaits curatifs, pour le pouvoir relaxant de ces eaux thermales que l'on trouve sous Budapest. C'est totalement intégré à la culture, à la tradition du pays. Et donc, c'était un dimanche, il y a quelques jours, direction les bains Setchény, toujours avec mon guide Pascal Michaud, pour découvrir cette tradition.
C'est une véritable culture à Budapest, mais sur toute la Hongrie. Hein. Il faut savoir que 80% du territoire hongrois est recouvert de sources thermales. Donc on peut faire un tour de la Hongrie en suivant les stations thermales.
Rien qu'à Budapest, c'est considérable hein, le nombre de sources.
Il y a 123 sources thermales à Budapest et 7 bains qui fonctionnent sur Budapest. Donc nous sommes sur le bain Setchény. Il faut savoir que les bains à Budapest, c'est une histoire lointaine, hein, puisqu'on remonte jusqu'au Celtes. Le mot lui-même, Aquincum, le nom romain de Budapest, vient du Celte Ac Inc, qui signifie eau abondante.
Et c'est quelque chose, donc les Romains évidemment avaient cette tradition des bains thermaux, et c'est quelque chose qui n'a jamais été perdu justement à cause des invasions quelque part. C'est peut-être un des apports que les Turcs ont réussi à préserver ici.
Tout à fait, donc au Moyen-Âge on connaissait bien sûr les sources thermales, il y avait des bains qui fonctionnaient, donc les bains de boue qui se trouvaient au niveau du bain Gellert actuel, mais il y a eu un renouveau des bains avec l'arrivée des Turcs, donc l'invasion des Turcs, une occupation pendant 150 ans qui a mis au goût turcs, certains bains de Budapest qu'on retrouve toujours actuellement.
Ça fait, quand on dit ça fait partie de la culture hongroise, ce qui est très frappant là, c'est que on pourrait croire que c'est quelque chose, c'est la fameuse image qui est prise ici hein, d'ailleurs des joueurs d'échecs, il y en a juste à côté de nous là, qui sont dans le bain en train de jouer. Mais il y a des enfants, il y a des ados, c'est comme les cafés, hein, c'est ancré vraiment dans l'âme des Hongrois.
C'est la vie de Budapest. Les bains, c'est un lieu de vie, bien sûr pour les retraités qui peuvent y passer toute leur journée. Il y a même des ordonnances qui sont prescrites pour certains soins. Au moment des vacances, les jours fériés, les familles viennent ici également. Et puis les jeunes, ils viennent aussi, tout simplement après avoir fait une nuit blanche, après avoir fait la fête. Les bains ouvrent à 6h30 et on peut se ressourcer, c'est le cas de le dire. Ce qui est bien, notamment au bain Setchény, c'est que en période estivale, ça ouvre jusqu'à 10h et parfois même jusqu'à minuit. Autre particularité sur Budapest, il y a 4 fois par an, il me semble, Cinestrip, qui sont des discothèques dans les bains. Ou alors des projections de cinéma dans les bains, par exemple les Dents de la Mer dans les bains.
Et alors, ce qui est formidable, c'est que bon, là on est en face, on est en extérieur, il fait un temps de rêve, il y a 3 bassins, dont un bassin de nage qui est absolument formidable. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas là à vue, il y a tous les bains qui sont à l'intérieur, où là on passe de 15 degrés à 40, en passant par toutes les variétés de température, et tout ça dans de l'eau thermale. Hein.
Oui, donc c'est de l'eau thermale, il y a 2 sources qui alimentent le bain, des sources qui sortent à 74 et 77 degrés, hein. Et ensuite on a toute une enfilade de bains, donc toutes mes félicitations, tu as réussi à passer sur le 16 degrés et au 40, hein. Donc... je crois que tu peux revenir à Budapest sans aucun problème.
On soigne quoi ici ?
Chaque source a des vertus curatives particulières. Sur le bain Setchény, les soins qui sont donnés pour les articulations, les maladies motrices, en cas d'accident pour la rééducation ou alors pour les maladies de reins.
Quand on vient à Budapest, je crois qu'il ne faut surtout pas se priver d'un bain ici à Setchény, au Gellért, les bains Rudas aussi. Bon, n'oubliez pas votre maillot de bain.
On continue notre découverte de Budapest après le Danube et les bains. On va partir en balade dans les rues, les marchés, les musées, dans les cafés de Budapest. Le Budapest Tour continue sur RTL. Alors, est-ce que les hôtels sont chers là-bas, dites-nous?
Écoutez, on se loge déjà plutôt facilement à Budapest, sauf à deux périodes. Le festival Sziget au mois d'août et le Grand Prix de Formule 1 où là, tout est plein. Les tarifs sont extrêmement abordables. Vous avez des hostels qui sont des auberges de jeunesse qui se sont multipliées à vitesse grand V ces dernières années. Il y en a pas mal dans le centre ancien de Pest. C'est très très étonnant. Vous en avez parfois qui sont dans des grands appartements rénovés avec des pièces spacieuses, des immeubles belle époque. Tout ça pour une quarantaine, cinquantaine d'euros la nuit. Vous avez également des apparts que vous pouvez louer pour 250, 300 euros la semaine. Et puis il y a des petites perles, par exemple comme cette Brody House qui est une chambre d'hôte dans un palais du XVIIe siècle, réhabilitée. Chaque chambre a été donnée à un artiste. Il l'a décorée comme il a voulu. Résultat, c'est sublime. Brody House, c'est en lien sur rtl.fr à la page de l'émission. Et surtout, entre 60 et 90 euros la nuit pour deux.
Pour deux personnes.
Exactement.
C'est vraiment intéressant.
C'est vraiment intéressant. Mmh. Et puis alors, vous avez évidemment tous les grands hôtels internationaux comme le Méridien. Vous avez là des chambres autour de 180 euros. Pourquoi je vous donne ce tarif et ce rapport? C'est que quand on compare tous les grands hôtels de la même classe comme le Méridien dans le monde, on se rend compte que 180 euros la nuit dans un 5 étoiles tel le Méridien, et ben c'est vraiment pas cher par rapport aux tarifs qu'on peut trouver dans les autres capitales du monde. Et puis vous avez évidemment, comme à chaque fois sur les Méridiens ou les grands hôtels, des offres sur Internet où vous avez des tarifs encore plus intéressants.
Bah, décidément, on y va. Merci Jean-Sébastien. À l'occasion de la fête des Pères, RTL et Thalazur vous offrent un séjour détente au grand hôtel Cordon Thalazur à Royan. Alors pour que vos courts séjours prennent la couleur de vos envies en thalasso, une évasion, 3 jours, 3 nuits en chambre à petit déjeuner, de la détente avec 3 soins par jour, 2 soins d'hydrothérapie, vous serez bien, vous serez détendu. Pour gagner ce séjour, vous devez d'abord répondre bien sûr à cette question.
Nous sommes à Budapest. Quel est le nom du fleuve? Le deuxième plus grand fleuve d'Europe après la Volga traverse Budapest.
On vous attend au 3210 pour y répondre bien sûr.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL
avec le guide du retard.
Alors Jean-Sébastien, Budapest est une grande ville.
Absolument, c'est une grande ville, Budapest. Alors c'est la capitale.
Ben voilà. Pour se balader, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a un métro?
Oui, il y a un métro, c'est un des plus anciens du monde. Mmh. Comme métro, vous avez également un tramway qui est pas un tramway reconstruit hein, comme on le fait beaucoup en France en ce moment. Il a toujours été là depuis sa construction. Moi, je vous proposerais justement de prendre le tramway, on traverse le Danube sur le pont. Hop, on se retrouve de l'autre côté, dans Buda, et on va aller visiter, après avoir pris le funiculaire qui va monter dans le quartier du château, ce château abrite le musée national qu'on peut aller visiter. Mais je vous proposerai surtout d'aller prendre le temps de se promener dans les rues, dans les jardins. Il y en a pas mal autour du château pour s'imprégner de l'ambiance de ce vieux quartier. Et puis à un moment, on va tomber sur l'église Saint-Mathias. Alors ça, c'est une église totalement étonnante qui rassemble un peu tous les styles à la fois.
C'est un architecte du 19e siècle, un peu le Viollet-le-Duc hongrois, qui décide la destruction totale de l'église baroque pour la reconstruire et raconter l'histoire de l'église à travers les styles qu'il intègre dans l'église elle-même.
Et ça donne quelque chose de... C'est entre le château de la Belle au Bois Dormant, une église complètement étonnante, qui effectivement, avec des tuiles vernissées sur le toit, et ça intègre un nombre de styles considérables.
Beaucoup de styles, puisqu'on passe du roman au gothique. Ensuite, on va revenir sur le roman avec le Bastion des Pêcheurs. Et juste à côté, on trouve l'hôtel Hilton de 1976, avec des façades en verre, qui intègre lui-même un ancien cloître... et une église dominicaine.
Alors, limite, on pourrait dire que tout cela est un peu kitsch, oui. Je vous le concède. Derrière le bastion des pêcheurs, c'est là où vous avez le plus fabuleux panorama sur la ville. Vous dominez le Danube et vous voyez tout Budapest. Pour commencer la balade, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, vous allez redescendre. Vous allez redescendre par le fameux hôtel Gellert avec ses célèbres bains, d'autres bains Art Nouveau pour goûter à nouveau à cette spécialité budapestoise. On retraverse le Danube, petit tour du côté du Parlement, le Parlement hongrois qui se visite, un vaste bâtiment inauguré au début du XXe siècle. Depuis 1902, c'est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie, un édifice avec un dôme central, une façade néo-gothique qui pourrait presque ressembler un peu au Parlement anglais au niveau du style, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le plus grand bâtiment de Hongrie, c'est le plus grand Parlement d'Europe, 18 000 mètres carrés, un bâtiment qui abrite la couronne de Saint-Étienne. Et quand on va voir la couronne, il y a tout un cérémonial. On monte des marches, vous avez la relève de la garde en permanence, on salue la couronne. Et cette couronne, c'est le ciment de la société hongroise.
La Sainte Couronne représente la continuité constitutionnelle de la Hongrie aussi. On peut dire que la constitution de la Hongrie est basée sur la personne vivante juridique de la Sainte Couronne.
C'est elle qui constitue le pouvoir de la personne qui la porte.
Le roi règne à la volonté de Dieu et à la volonté de la Sainte Couronne au Moyen-Âge.
Et donc, il y a la couronne. Et il y a aussi un sceptre.
Autour de la Sainte Couronne, on peut voir trois attributs. À gauche, le sceptre qui représente la justice. Et à droite, le globe qui représente le pouvoir. Et au-dessous, l'épée.
Et tous ces symboles qui n'ont plus cours, puisque c'est une démocratie parlementaire, eh bien, c'est encore un symbole d'unité constitutionnelle. Alors, bien sûr, il y a aussi des musées à découvrir. Et là, on retrouve Pascal Michaud.
L'incontournable, ce sera certainement le musée des Beaux-Arts qui propose des expositions très riches, des expositions temporaires sur le modèle des expositions parisiennes, grandes expositions, il y a eu Monet, Van Gogh par exemple, et puis avec un fonds très riche hérité des collections des nobles hongrois. L'autre musée, ce sera la Galerie des Arts ou le musée Ludwig qui présente l'art contemporain. Et puis après, il y a les musées, j'allais dire, historiques, le musée de la Terreur qui rappelle l'histoire récente hongroise.
Sur le boulevard Andrássy, c'est déjà quelque chose d'étonnant.
Oui, c'est étonnant parce que la couleur, et même une couleur bleue, provoque un contraste par rapport aux autres immeubles. Et puis on voit ce mot « terreur » écrit en gros. Donc déjà, on est pétrifié. Hein. Et donc c'est un endroit symbolique pour les Budapestois puisque c'était le siège des nazis hongrois, des croix fléchées. Et ensuite, de la police politique jusqu'en 1956.
Alors attention, hein, c'est pas une maison hantée de pacotille. Hein.
Ah oui, c'est une vraie.
La maison de la terreur de Budapest, ça a été le siège de la milice nazie, le siège de la police secrète stalinienne. Mmh. L'immeuble a été l'immeuble a été aménagé en musée très stylisé. Et on va visiter les caves. Et je peux vous assurer, quand on se retrouve dans la cave, avec tous les objets de torture qui étaient utilisés, je vous jure que c'est. On se dit que. Ah bah dites donc, derrière le rideau de fer, waouh.
Ouais.
Alors ça a été aménagé, c'est formidablement bien fait, et ça rappelle de manière criante, presque violente, les horreurs du totalitarisme, et c'est une belle mission d'éducation qu'on fait dans ce musée.
Et c'est essentiel. Merci Jean-Sébastien. À l'occasion de la fête des pères qu'on embrasse, RTL et Thalazur vous offrent un séjour détente au grand hôtel Cordouan Thalazur à Royan. Alors pour que vos courts séjours prennent la couleur de vos envies en thalasso, une évasion, 3 jours, 3 nuits en chambre et petit déjeuner, de la détente avec 3 soins par jour, 2 soins d'hydrothérapie, vous serez bien, vous serez détendu. Pour gagner ce séjour, vous devez d'abord répondre bien sûr à cette question.
Nous sommes à Budapest tout cet après-midi. Oui. Et quel est le nom du fleuve? Le deuxième plus grand fleuve d'Europe après la Volga?
On vous attend au 3210 pour y répondre, bien sûr. La Hongrie est réputée pour quelques spécialités, dont le fameux paprika. On part à la découverte du ventre de Budapest, un petit tour au marché. C'est maintenant sur RTL.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL.
Gourmandise.
Bon, alors là, Jean-Sébastien, direction le marché à Budapest, hein, parce que c'est quand même le passage obligé, je suis sûre. C'est ce que vous allez me dire.
Il est magnifique, ouais. Le marché. C'est un peu un bâtiment de style baltar, on va dire. Mmh. Au moment de la création, c'était en 1887 de ce magnifique marché. Il faut savoir qu'il y avait un tunnel qui permettait de l'approvisionner par le sous-sol, parce que les marchandises arrivaient en chalons le long du Danube, mmh, jusqu'au centre de Budapest. Le Danube est à quoi ? Est à, allez, on va dire 80 mètres du marché. Alors, on a su le protéger du modernisme, ce marché. C'est un vrai monument historique de fer, de briques, une harmonie parfaite qui laisse la place à 3 étages d'échoppes. Il y a des échoppes sur des galeries.
Oui.
Vous avez les produits au rez-de-chaussée. Et puis au sous-sol, vous avez tout ce qui est poisson, etc., etc. Il y a 300 boutiques établies sur ces 3 niveaux qui rivalisent d'originalité. Vous avez notamment quelques boutiques où on trouve des casseroles absolument incroyables pour et puis bien sûr produit vedette normal, le paprika. Marché avec Pascal Michaud.
On a le paprika frais avec cette couleur jaune et ensuite qui devient rouge et qu'on va utiliser notamment dans le lecho, la ratatouille hongroise.
Ça peut se manger avant d'être réduit en poudre. On peut le manger frais comme ça, c'est pas trop violent.
Non, je veux dire, c'est même un aliment sain, hein, parce que le paprika contient de la vitamine C. Ça peut se manger en salade, par exemple. Et puis, tu le vois, il y a ce paprika vert, qui est un paprika fort. Et donc là, ils vont le manger à côté du plat principal pour relever un petit peu le plat. Il faut savoir que le paprika en poudre n'est pas forcément fort. Il peut être doux également, et ce qui permet de relever un petit peu la cuisine hongroise, cette touche hongroise.
En fait, dans le marché, il y a deux parties. La partie droite, c'est très touristique. C'est là où on a les jolis conditionnements pour le paprika. Et puis là, on est vraiment dans la partie hongroise où les habitants de Budapest viennent s'approvisionner.
La cuisine hongroise, c'est une cuisine qui va utiliser les produits de saison. Bien sûr, le choix est beaucoup plus minime. Et puis, c'est ici que, donc, comme tu le disais, c'est ici que les Hongrois vont s'achalander.
On a des tomates, on a évidemment incontournable aussi du chou.
Du chou,
du chou vert, du chou rouge.
On va le retrouver partout dans la cuisine hongroise, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver à côté du plat principal pommes de terre et chou, hein, du chou rouge par exemple cuisiné à la vapeur. Et puis ce que tu as pu voir aussi en sous-sol, ce sont les pickles, hein, qui sont toujours servis donc dans une petite assiette à côté du plat principal.
Quoi ça, c'est de l'ail des ours, hein, ça.
C'est une plante, hein, ce n'est pas de l'ail, c'est une plante verte.
Qui est quand même un des rares trucs verts qu'on trouve sur les marchés, hein.
C'est vrai que bon, on a vu qu'il y avait le paprika vert, mais la salade, on ne trouve pas beaucoup d'assortiments de variétés de salades. Et les Hongrois vont manger peut-être une laitue de temps en temps, mais vont préférer un plat principal avec de la viande, parce qu'ils adorent la viande, et puis pommes de terre et choux.
Autre incontournable de la cuisine en Hongrie, on le disait tout à l'heure, c'est la viande. C'est impressionnant le rayon boucherie. Il y a un nombre de viandes différentes, de morceaux. Il y a beaucoup de volailles déjà et il y a beaucoup d'abats.
Oui, donc là, comme tu as pu l'apercevoir, les Hongrois adorent la viande. Ce sont des fous de viande et donc il y a un large choix. Ce qu'on voit peut-être moins en France, c'est de trouver donc les abats. Par exemple, on va trouver parfois une poule entière et à côté les abats, la tête, les pattes pour pouvoir cuisiner notamment la poule au pot. Donc la poule au pot, c'est un incontournable de la cuisine hongroise. Ça sera le repas du dimanche, hein. Toute la famille va se retrouver autour de cette poule au pot.
Toujours dans le chaudron
dans le chaudron, non, parce qu'on est à Budapest, donc c'est pas tout le monde n'a pas un jardin pour cuisiner au chaudron et avec le feu, hein. Mais c'est vrai qu'à la campagne, on va encore cuisiner au chaudron, même en été.
L'incontournable aussi, c'est dès qu'on lève les yeux, on a 250 variétés de charcuterie. Hein.
Donc la charcuterie, parce qu'ils consomment beaucoup de charcuterie, souvent au petit déjeuner, mais même le soir, pour un repas froid, ils vont manger charcuterie, le paprika et un peu de concombre. Hein. Et donc ce qu'on voit ici, ce sont les paprikas de Pic, qui est une manufacture qui se trouve à Szeged, au sud de la Hongrie.
Dans le rayon juste derrière les vendeurs, il y a des pâtes.
On parlait d'assortiment impressionnant de viande, mais les pâtes, c'est la même chose. J'allais dire, pour chaque plat, il y a une sorte de pâte spécifique. Hein, et donc on va trouver des pâtes, les pâtes escargot qu'on va retrouver par exemple dans la poule au pot. Hein, mais on va trouver par exemple des pâtes au pavot, hein, des pâtes aux pommes de terre. Hein, donc des choses un peu incroyables, hein, pour notre palais français.
C'est vrai que des pâtes aux pommes de terre comme ça, c'est un truc qu'on ne ferait pas tout de suite. C'est des pâtes avec des pommes de terre et du pain pour pousser. Bien
peut-être,
sûr.
Peut-être pas, là, ça suffira. Hein, mais il y a les pâtes aux choux, par exemple, qui sont excellentes. J'allais dire, la cuisine hongroise, c'est une cuisine instinctive et puis où on retrouve les saveurs simples de la nature. Ouais.
J'ai enfin trouvé la vraie recette de la goulache où il faut du bœuf, de la graisse, des oignons, du paprika évidemment, des pommes de terre, un peu de sel, carottes, persil, cumin et de la crème de goulash. Donc il faut hacher très fin 100 g d'oignons, braiser 50 ml d'huile, ajouter 5 g de cumin et 2 cuillères à café de paprika. En hachant et en ajoutant 500 g de bœuf ou de porc, on assaisonne avec un peu de sel, on ajoute de l'eau, de la crème de goulash et on recouvre 10 minutes. On laisse cuire, on verse 2 litres d'eau, les pommes de terre en petits morceaux, les carottes en rondelles et on attend que la viande devienne bien tendre. Voilà la recette de la goulash hongroise.
Dites-moi Jean-Sébastien, il y a de nombreuses célébrités d'origine hongroise, on peut le rappeler.
Ça vous en avez un paquet. Nicolas Sarkozy, en premier lieu, l'ancien président de la République. Vous avez un grand magicien, Harry Houdini.
Ah oui, c'est pas tout jeune, mais on s'en souvient.
Un de ceux qui a joué le rôle d'Harry Houdini, Tony Curtis, était d'origine hongroise. Mmh. Adrien Brody, est d'origine hongroise. Michel Drucker, également, ainsi qu'Isabelle Huppert, sont d'origine hongroise.
Et Claude Sigetti, qui prépare cette émission avec nous.
Absolument.
Bon. Découverte d'une des plus grandes traditions de Budapest, l'on fait un tour au café. C'est totalement incontournable et c'est tout de suite sur RTL, dans Itinéraire à Budapest, jusqu'à 15h.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL.
Avec le guide du routard.
Alors bien sûr, Jean-Sébastien, on pense au café quand on parle de Budapest. Budapest compte d'innombrables bars.
Des lieux très beaux, avec des terrasses, avec des décors très classieux, parce que depuis toujours, on y passe du temps. On y vit presque au café à Budapest pour boire, pour discuter, pour se rencontrer. On boit notamment des limonades faites sur place qui sont magnifiques. Et ces limonades, on peut couper son verre de vin avec. C'est le fameux blanc limé qui est tombé en désuétude en France, mais qui est délicieusement bon et rafraîchissant. Alors pendant l'époque communiste, ces cafés constituaient des espaces de liberté que l'on ne pouvait pas supporter. Donc on a essayé d'éradiquer la mode du café à Budapest. Et j'ai rencontré dans un de ces bars la plus grande spécialiste en matière d'histoire de café. Elle a écrit nombre d'ouvrages sur les cafés de Budapest. Elle s'appelle Noémie Sali.
Le pouvoir communiste détestait les cafés parce que le café, c'est la bastion, c'est le siège de la démocratie. Et donc, c'était la chose la plus dangereuse du monde. Et effectivement, le café, c'était non seulement un lieu de rencontre, mais c'était aussi le centre de toutes sortes d'informations. Il y avait au premier l'information écrite, parce qu'il y avait tous les journaux possibles, accessibles à tout le monde.
C'était une vraie tradition, hein, mais carrément une habitude de vie. On allait au café le matin, à midi, le soir.
Et non seulement pour lire les journaux, mais aussi pour rencontrer les copains, discuter, pour les distractions aussi, bien évidemment. Donc il y avait toutes sortes de jeux, il y avait le billard, il y avait les échecs, on jouait, on s'amusait, on écoutait la musique. Donc il y avait les communautés, il y avait plusieurs communautés auxquelles l'individu pouvait appartenir. Mais dans les cafés, il y avait des compagnies de femmes qui se rencontraient, qui regardaient les journaux de mode venant de Paris par exemple. Il y avait des journaux extrêmement chers que les gérants commandaient de Paris ou de Londres justement pour attirer une clientèle de femmes qui allaient avec les gosses. Je dis assez souvent que l'ancien café de Budapest, c'était une garderie d'adultes et on pouvait très bien y passer la journée et trouver tout mais effectivement tout de ce que on peut avoir besoin.
Voir la nuit, puisque les grands cafés étaient ouverts 24 heures sur 24. Hein.
Bah, exactement, oui. Donc, si on avait un appartement moche où on était sous-locataire, chez une même effrayante, on pouvait rester dans le café, on pouvait même y passer la nuit. Il y avait des chambres séparées avec les canapés qui servaient aussi à beaucoup de choses, mais les pauvres journalistes ou les pauvres écrivains pouvaient passer la nuit s'ils étaient copains avec le garçon en chef. Ils pouvaient dormir même dans les chambres séparées des cafés.
Vous n'avez pas croisé de mémères effrayantes, hein?
Non.
Rassurez-moi, vous n'avez pas dormi dans un café non plus.
Non, non, je vous rassure.
Ouais, hein,
mais c'est vraiment bien de se retrouver dans ces cafés où on discute, où on peut rencontrer, j'allais dire, des vrais gens. Et cet esprit social des cafés, on pourrait croire que les jeunes, aujourd'hui, les jeunes générations, bah, ils ont un peu délaissé cette habitude. En fait, pas du tout. Ils continuent à avoir l'habitude de se rencontrer. Ah, quand ils sont jeunes, pas forcément dans les cafés, mais ils font comme leurs parents et leurs grands-parents, un petit peu différemment.
Les jeunes se comportent dans les McDo ou bien dans ces fast-food comme s'ils étaient dans les cafés, comme s'ils étaient dans ces anciens locaux. C'est peut-être simplement l'esprit du coin, l'esprit de ces salles, et ils y passent l'après-midi. C'est pas simplement la mode américaine qui les attire. C'est une question d'argent aussi. Ils y passent le temps dans les grandes surfaces. Il y a des cafés et les très jeunes, des gosses de 13-14 ans, ils s'y installent. Ils y passent leur temps. Et s'ils commencent à connaître cette mode de vie, ils vont continuer ailleurs.
Si on résume et pour finir, il y a un vrai mode de vie à Budapest qui s'est toujours passé dans les cafés depuis des décennies et des décennies, et on a été toujours habitué à aller au café, à rencontrer au café, à vivre et à faire du lien social, comme on dit.
Il est très intéressant qu'après le changement de système, donc ça fait déjà plus de 20 ans, la première chose qui est apparue comme signe de ce changement profond dans les âmes, c'était l'apparition des cafés. On a repris cette habitude, et c'était comme quand le bouchon sort d'une bouteille de champagne, d'une vitesse et d'un élan inouï. On a recommencé à fonder des cafés partout, et bien sûr, on tâtonne, on essaye à refaire, on ne sait pas comment, parce qu'il y a déjà deux générations de restaurateurs et deux générations de clients qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment gérer un café et comment se comporter dans un café. On doit réapprendre et on est en train de réapprendre.
C'est une vraie belle culture, celle des cafés à Budapest. Et grâce à Noémie Sally, il y a cette mémoire qui existe et qui permet de recréer des endroits comme celui dans lequel nous étions. J'ai vraiment rencontré, j'ai eu un gros coup de cœur pour Noémie, parce que c'est une belle personne.
Jean-Sébastien, dites-moi, on dit que Budapest faisait partie des destinations qui étaient de plus en plus connues pour les soins dentaires.
Oui, je vous confirme
ça. Et oui, on voit des reportages à droite à gauche.
Absolument. Ouais. Il y a de plus en plus, ça fait partie de ces villes où on fait du tourisme médical, comme on dit. Et la Hongrie et Budapest en particulier sont réputées pour offrir des soins dentaires de qualité à des prix défiant toute concurrence.
Ça, c'est le plus important, de qualité.
De qualité, oui. Genre 3 à 4 fois moins cher qu'à Paris. Pour ceux qui seraient intéressés, toutes les informations sont sur RTL. Parce qu'il y a un site internet dédié à tout cela sur le tourisme dentaire. C'est très très sérieux et on est vraiment bien soigné. J'en ai eu la confirmation par Pascal Michaud, qui est mon guide et qui est un Français qui vit à Budapest.
Alors on continue notre promenade hongroise. On est à Budapest, mais on va quand même un petit peu se promener à Paris. Jean-Sébastien vous explique tout. C'est maintenant sur RTL, Itinéraire à Budapest cet après-midi.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL
avec le guide du retard.
Alors, c'est une vraie belle ville, on le sent bien dans tout ce que vous nous dites. On continue la balade, Jean-Sébastien.
Et il faut se balader le nez en l'air.
Il faut se perdre un peu.
Parce que les immeubles sont tous plus beaux les uns que les autres. Budapest, à l'image de Prague, est un peu un manifeste architectural. Il y a tous les styles qui sont représentés. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, la ville a connu une croissance assez fulgurante grâce à sa position stratégique sur les routes commerciales de l'Empire. On est au pied des collines de Bouddha, la plaine de Pest se développe encore plus vite. La grande inondation de 1838 a favorisé l'émergence d'une cité moderne avec de grandes avenues et la ville a pris un peu sa physionomie définitive à partir de 1890 en s'inspirant des travaux du baron Haussmann en France. Et là, on retrouve Pascal Michaud. On était dans un passage comme on en trouve à Paris, justement, c'est le passage de Paris.
On est au tournant du siècle 19e, 20e siècle, et la référence à l'époque, c'est la Ville Lumière, Paris, où de nombreux artistes hongrois vont se rendre pour s'imprégner de la culture française. Ces passages qui étaient bien connus à Paris, on va les intégrer dans l'architecture hongroise, mais bien sûr avec la touche hongroise. On est dans un style mauresque, éclectique, et en fait, le passage, c'est aussi le passage vers différentes architectures.
Tout Budapest a été entièrement reconstruite dans le XXe siècle. Hein.
Budapest est né en 1873, mais la plupart des bâtiments qu'on voit à Budapest, ce sont des bâtiments qui datent de la fin du XIXe siècle, donc une date symbolique 1896 pour l'exposition du millénaire, et là on va construire énormément. Il faut savoir que le Budapest de la fin du XIXe siècle, c'est la grande métropole, une des grandes métropoles européennes, et en termes de développement économique, c'est l'équivalent de Chicago à l'époque.
Et alors, il y a également, évidemment, toute la période communiste qui a laissé quelques empreintes hein, aussi.
Ça, c'est incroyable parce qu'on se trouve dans ce passage. Donc, j'évoquais ce passage vers différents styles. Et puis, tout d'un coup, le style s'arrête et on tombe sur le style réel socialiste dans toute sa beauté, dans toute son ampleur. Et il y a une rupture nette qui rappelle la rupture dans l'histoire hongroise.
Vous confirmez que la rupture elle est assez impressionnante au niveau de l'architecture. Autre endroit à découvrir à Budapest, le ghetto juif qui fait partie de ces quartiers historiques à découvrir, avec notamment la synagogue de la rue Dohany, un bâtiment complètement impressionnant. Je me suis baladé là-bas avec Zita, une Hongroise francophone qui organise des tours de ville.
C'est la plus grande synagogue de l'Europe qui a été construite en 1850. Et c'est vrai que ça ressemble à une église. Et donc dans ce quartier, il y a encore deux autres synagogues qu'on peut voir. L'un, c'est pour le status quo et l'autre, c'est pour les orthodoxes.
Et c'est vrai que quand on rentre à l'intérieur, alors déjà c'est assez gigantesque, hein, on peut mettre 3000 fidèles dans cette synagogue, avec quand même la tradition, les hommes en bas, les femmes sur les tribunes, mais on a presque l'impression, j'allais dire, dans la structure, de rentrer dans une église basque.
Ah oui, ça m'a étonné, comme vous avez dit, oui. Et ça c'est intéressant par contre.
Et alors, autour de la synagogue, il y a cette sculpture qui a une histoire assez particulière.
Hein. Oui, parce que le fondateur qui a donné l'argent pour construire cette sculpture était Tony Curtis. Donc, c'est pour cela que c'est un peu spécial.
Et cette sculpture qui est un saule pleureur, qui rend hommage aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, aux victimes juives de la Deuxième Guerre mondiale ici de Budapest.
Oui, exactement. Qui ont été tués dans ce ghetto même et dans d'autres parties du monde.
On va continuer à se balader avec Zita, parce qu'elle m'a fait découvrir ce qu'on appelle les ruines pub à Budapest.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?
Vous allez le savoir.
Itinéraire d'un auditeur gâté sur RTL
avec le guide du routard.
Alors, nous avons parlé des cafés, des restos, il y a bien sûr des boîtes, mais il y a aussi des endroits très particuliers pour sortir. Explication.
Ah, ce sont des ruines peuples. Ce sont souvent d'anciens entrepôts, des bâtiments publics désaffectés, des propriétés de l'époque communiste où il ne se place plus rien, ou simplement des cours d'immeubles qui ont été transformés en bars. Et alors, il y a des marchands de biens, des promoteurs qui, en attendant les travaux de rénovation ou de démolition, eh bien, ils louent ces immeubles pour en faire des lieux de nuit. Et ce sont des endroits remarquables, très peu chers, ouais, où on s'amuse, où là encore on peut faire des rencontres, où il y a une jeunesse alternative qui invente sans cesse de nouveaux lieux. Tout cela change, il faut réussir à les suivre. C'est Bar Squat. Et avec Zita, nous avons découvert ces endroits incroyables. Vous imaginez le tableau quand on en a parlé. On est sur le toit d'un immeuble époque soviétique.
Ah,
c'est
bien.
Un énorme cube posé dans le 8e arrondissement de Budapest. Mmh. Vous imaginez le bar, la nuit budapestoise qui est chaude. Mmh. On est sur le toit, au loin le château, juste au-dessus la lune et Zita.
On y est.
C'est un ancien magasin de l'époque communiste. Le seul magasin où on pouvait acheter quoi que ce soit, les fringues ou bien de la banane ou les produits qui viennent de l'Ouest. Et donc maintenant, comme c'est délassé, et il y a ce petit pub qui est venu s'installer ici sur le dernier étage et qui occupe même le toit où on est.
Ça fait partie de ces endroits de la nuit qui sont complètement étonnants, qu'on appelle les ruines pubs.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc ça s'inscrit dans cette catégorie-là.
C'est quoi en fait ? C'est des immeubles désaffectés, en ruine, qui sont squattés.
Pas squattés, mais c'est un immeuble complètement vide, donc qui est juste loué par cette société. Chaque jour, à partir de jeudi, il y a des programmes, il y a des DJ qui viennent ici, il y a même un petit magasin où on peut échanger des fringues. Donc, c'est ouvert devant les jeunes.
Il y en a combien de ces endroits ?
Je pense qu'il y en a une vingtaine pour l'instant.
Et ils sont à peu près tous dans le même endroit à Prague.
Il y en a...
Là, on est dans le 8e arrondissement, ouais, à la frontière du ghetto.
Oui, on est à la frontière du ghetto. Je peux dire que même dans l'ancien ghetto, il y en a pas mal de bars, voire il y a le plus de bars, de ruines à Budapest. Mais autour de ce quartier, il y en a beaucoup aussi, même sur Buda.
C'est une ville qui bouge, Budapest, la nuit.
Oui, ça bouge beaucoup, surtout le week-end. Et comme il y a beaucoup de bars, je pense qu'il y a tous les gens qui trouvent son bar préféré à Budapest. Donc, vous pouvez aller dans un bar, prendre quelques verres et puis aller dans un autre où il y a un meilleur programme. Ça tombe bien parce que cette musique, c'est typiquement hongroise. Donc, ça s'appelle la musique de Tzigane. Et c'est bien qu'on l'entende là.
Eh bien, ça y est, notre promenade au son des violons de Zigane s'achève. Vous nous avez dévoilé quelques secrets de Budapest, Jean-Sébastien.
Il y en a plein d'autres dans le guide du routard Budapest, voilà, évidemment.
Voilà, plongé dans le guide du routard de Budapest. Et puis, on rappelle la monnaie, c'est quoi là-bas ?
Ah, la monnaie en Hongrie, c'est le forint. Bon, y a, souvent, les prix sont affichés en euros, hein, parce que
oui, c'est beaucoup plus simple.
Aujourd'hui, grosso modo, pour 1 euro, vous avez 294 forint, donc c'est très simple, oui, pour faire la conversion. Ouais. Vous divisez par 3, vous enlevez 2 zéros.
Merci Jean-Sébastien. Alors, le résultat du jeu.
Ah, ben oui, quand même.
Question.
Le jeu Talazur pour la fête des pères.
Eh bien, oui.
On a parlé de Budapest pendant une heure et demie. Forcément, le fleuve de Budapest, c'est le Danube qui donne son identité à la ville. Et il y a un gagnant.
Eh oui, et c'est Robert de Lille.
Ça tombe bien pour la fête des pères.
Ah, ben bravo Robert. Il a été tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et il gagne donc ce séjour Talazur au grand hôtel Cordouan de Royan.
Merci Jade, à la semaine prochaine.
Merci Jean-Sébastien pour toute cette balade. Je pars à Budapest.
Vous écoutez RTL.